Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du journal dont voici les titres. Selon un rapport de OCHA, la RDC enregistre plus de 5,61 millions de déplacés internes. Parmi les 26 provinces du pays, le Sud Kivu concentre à lui seul 44% de ses déplacés. En plus, le Sud Kivu occupe la première place en termes de personnes retournées dans leur zone d'origine. Nous parlerons aussi de la somme d'argent saisie dernièrement à l'aéroport international d'Njili, initialement évaluée à 1 900 000 dollars américains, elle a été révisée à 3 532 000 dollars par le ministre de la Justice en mars dernier. Lors d'une conférence de presse tenue à Kinshasa, le gouverneur de la Banque centrale du Congo, André Wameso, affirme que cet argent appartenait à une messagerie financière agréée par la Banque centrale. L'invité de ce journal, c'est maître Dominique Kambala, bâtonnier honoraire du barreau de Kananga au Kasaï central. Il parle de l'ouvrage intitulé « Les bâtisseurs d'honneur » consacré aux avocats par le Conseil de l'Ordre qui vient d'être présenté à Mbandaka dans la province de l'Équateur. Ce livre de 96 pages rend hommage aux pionniers de cette profession libérale. Encore une fois, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Le Sud Kivu est actuellement la province de la RDC qui compte le plus grand nombre de déplacés internes. Selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, OCHA, ils sont environ 2 400 000. La province occupe également la première place en termes de personnes retournées dans leur zone d'origine. Jean Kassami fait le point sur ces rapports.
D'après OCHA, la RDC enregistre plus de 5,61 millions de déplacés internes. Le Sud Kivu concentre à lui seul la proportion la plus élevée. OCHA indique que entre janvier et février 2026, plus de 300 000 nouvelles personnes se sont retrouvées dans l'obligation de fuir leur ménage principalement dans les provinces du Sud Kivu, du Nord Kivu et du Tanganyika. Ces mouvements sont essentiellement liés aux affrontements armés, ajoute le Bureau de coordination des affaires humanitaires OCHA. Certains déplacés jugent nécessaire de regagner leur zone de résidence dès que la moindre accalmie semble s'y installer. Là encore, les provinces du Sud Kivu et du Nord Kivu restent les plus touchées avec un taux respectif de 67 et 20%. Bien que le mouvement de retour des déplacés internes semble bouger, la problématique des rapatriements des réfugiés congolais au Burundi pose encore problème. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Au Nord Kivu voisin, la situation reste confuse et volatile ce lundi dans les agglomérations de Lukweti et Kalongé, situées à la limite entre les territoires de Walikale et Masisi. Ces deux entités ont été durant tout le week-end le théâtre des violents combats opposant l'AFC M23 aux combattants Wazalendo. Selon plusieurs sources concordantes, les deux forces continuent de se faire face ce lundi, maintenant une forte tension et paralysant totalement les activités socio-économiques dans la zone. Les détails avec vous, Élisée Chikota Chivueta.
Les détonations d'armes lourdes et légères ont été entendues une bonne partie de la soirée du dimanche dans cette partie du nord-ouest de Masisi et dans l'est de Walikale. Les sources coutumières locales qui confirme ces combats, indique au terme d'environ 3 jours d'attaque, l'AFC-M23 se serait emparé de la notabilité de Ngurumo, située à 3 kilomètres du centre de Lukweti. L'autre partie de Lukweti, elle, resterait sous contrôle de Wazalendo allié au FRDC. Par ailleurs, des combats intenses ont également été rapportés jusqu'à tard dans la nuit dans les agglomérations de Kalembe, territoire de Masisi, et Kalongé, dans le territoire de Walikale. Selon nos sources, les Wazalendo ont lancé une offensive aux alentours de 20 heures dans le but de déloger l'AFC-M23 de ses positions qu'il occupe depuis fin mars après son retrait d'Mpeti et Mdjedjin. Ce lundi matin, les tirs avaient cessé. Toutefois, la situation demeure extrêmement volatile dans toutes ces entités où les forces belligérantes restent présentes et en alerte. Une situation qui, selon nos sources, perturbe profondément la quiétude des populations locales et paralyse les activités socio-économiques et scolaires en ces jours marqués par la rentrée après les vacances de Pâques.
En Ituri, pendant ces temps, plus d'une vingtaine de véhicules de transport en commun et de produits pétroliers sont tombés dans des embuscades de présumés miliciens de la Codeco sur la route nationale numéro 27 entre vendredi et samedi dernier. Selon des sources sécuritaires, ces assaillants ont tué un chauffeur de nationalité kenyane au village des Matete et pillé plusieurs biens sur l'axe Djougou-Ngoura dans les territoires de Djougou. Des notables dans la région condamnent ces actes qui, selon eux, risquent de fragiliser la calmie observée depuis plusieurs mois sur cette route qui revêt une importance socio-économique capitale. Martial Kizabiamongo.
Au total, 23 véhicules, dont des véhicules de transport en commun, sont tombés dans des embuscades des présumés éléments de la Codeco vendredi et samedi dernier. Selon des sources sécuritaires, ces assaillants ont surgi de la brousse en barrant la route sur les tronçons entre Djadjou et Ngoura. Ensuite, ils ont tiré des coups de feu pour stopper les véhicules. Plusieurs biens, dont de l'argent et des téléphones des passagers, ont été arrachés par ces miliciens sur la même route nationale numéro 27, mais au niveau du village de Matete. Cette fois, des sources locales rapportent que ces assaillants ont tué par balle un chauffeur de camion-citerne transportant des produits pétroliers et des nationalités kenyanes. Des notables dans la région appellent l'armée à se déployer dans plusieurs endroits jugés dangereux sur cette route d'une importance capitale. Ils disent craindre que ces attaques ne fragilisent la situation sécuritaire sur cette route nationale après une longue période d'accalmie. Bougnard, Martial Kizabiamongo, Radio Okapi.
Situation similaire dans la province du Tanganyika où une attaque armée survenue vendredi dernier a fait 2 morts et 2 personnes kidnappées dont un ressortissant chinois. D'après des sources locales, c'était au cours d'une embuscade tendue par des hommes armés non autrement identifiés sur l'axe Kitako en territoire de Kalemie. Le point avec Paulin Munanga.
Un véhicule revenant du site minier situé du côté du village Rugumba, exploité par des Chinois, a été pris pour cible par des hommes armés, indiquent des sources locales. Au bord du véhicule, il y avait 4 passagers, dont un interprète congolais, un chauffeur, une personne qui serait identifiée comme un agent de sécurité et un ressortissant chinois exploitant minier. Les sources rapportent qu'au moment de l'attaque, l'agent de sécurité aurait tenté de riposter mais sans succès et il a été tué sur place. Le chauffeur qui a été grièvement blessé au moment où il tentait de fuir est décédé peu après son transfert à Kalemie. Les ressortissants chinois et son interprète congolais ont été enlevés. Le ministre provincial de l'Intérieur du Tanganyika que nous avons pu joindre ne s'est pas finalement exprimé. Signalons que c'est une énième attaque qui cible un ressortissant chinois œuvrant dans l'exploitation minière dans le territoire de Kalemie. Lubumbashi, Paulin Munanga, Radio Okapi.
On en sait désormais davantage sur la somme saisie à l'aéroport d'Njili à Kinshasa. Initialement évaluée à 1 900 000 dollars américains, elle a été révisée à 3 532 000 dollars par le ministre de la Justice en mars dernier. Lors d'une conférence de presse tenue jeudi dernier, à l'issue de la réunion du comité des politiques monétaires, le gouverneur de la Banque centrale du Congo, André Wameso, a précisé qu'il s'agissait d'une messagerie financière agréée par la Banque centrale. Celle-ci avait sollicité auprès de l'institution un transfert de fonds en espèces destinés à sa clientèle dans les zones de l'Est de la RDC non occupées par la rébellion de l'AFC M23 soutenue par le Rwanda. Voici les explications d'André Wameso dans un extrait proposé par Alain Irung.
Par rapport à ce qui a été saisi au niveau de l'aéroport, il faut savoir que là, c'est une toute autre affaire. C'est une messagerie financière qui a son agrément de la Banque centrale qui devait, pour des besoins de servir sa clientèle en cash dans les régions est de la République démocratique du Congo, pas sous occupation, je tiens à le préciser, devait transporter des fonds. Mais cette messagerie financière a demandé l'autorisation de transporter une certaine quantité de fonds. Et quand elle a été contrôlée au niveau de l'aéroport, la quantité effectivement prête à être transportée par elle était supérieure à la demande qui a été formulée. C'est pour cela que les services de l'État, voyant que les documents autorisant le transfert de fonds étaient pour un montant qui n'était pas celui qui était entre les mains des agents de cette messagerie financière, ont décidé de saisir cet argent et de le consigner à la Banque centrale. C'est toujours à la Banque centrale et les enquêtes sont en cours.
Et puis les rideaux sont tombés dimanche 12 avril au complexe scolaire Kiwele de Lubumbashi sur la 11e édition du festival Amani, organisé durant 3 jours pour la première fois dans la province du Haut-Katanga après 9 éditions à Goma et 1 édition à Bukavu. Plus de 20 artistes dont Youssoufa, Ferregola, Jean Goubal Kalala, Inos B, Kanyera, Francesco Nchikala et bien d'autres artistes de la scène musicale de Goma et Lubumbashi se sont produits sur la scène de ce festival créé en 2013 par les jeunes du foyer culturel de Goma. Notre envoyé spécial Jean-Marc Matoakimofelele revient sur les temps forts de cet événement culturel aux couleurs de la paix et du vivre ensemble.
Lubumbashi, la capitale du cuivre, a vibré du vendredi 10 jusqu'à dimanche 12 avril au rythme des spectacles des musiques et danses livrés par une 20aine d'artistes congolais et africains. Sensibiliser pour la paix et les vivre ensemble, c'est le message clé de cet événement qui a servi de cadre également au panel sur l'entrepreneuriat, l'environnement, l'économie de la musique, la promotion des industries culturelles et créatives. Redevenir, c'est les thèmes retenu pour cette 11e édition du Festival Amani, organisé sous le patronage de la Première ministre Judith Suminwa Tuluka, qui a pris part à cette grande fête de la musique et des danses. Au-delà de son côté ludique, le Festival Amani a également offert un espace, mieux un village pour l'entrepreneuriat et la promotion des initiatives citoyennes. Les tableaux de peinture, la nourriture et la boisson étaient également au menu. Cependant, selon certains observateurs, la 11e édition du Festival Amani a connu moins d'engouement que les éditions précédentes.
L'eau potable, un besoin vital, devient de plus en plus difficile d'accès dans certains quartiers de la ville de Beni au nord Kivu. Pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, des ménages se retrouvent sans eau au robinet, contraints de se tourner vers des sources alternatives, parfois insalubres et dangereuses pour la santé. Une situation qui suscite inquiétude et frustration au sein de la population. C'est un reportage de Jacqueline Vivouya.
Dans plusieurs quartiers de Beni, notamment résidentiels, Kanzuli, Tamende, Ndoni et Ma Campagne, l'eau de la régie des eaux ne coule plus depuis plusieurs jours. Une situation qui perturbe fortement le quotidien des habitants, rendant plusieurs tâches ménagères difficiles, témoigne cette habitante.
Nous venons maintenant de faire 3 semaines sans avoir l'eau de la régie des eaux et vraiment ça nous cause beaucoup de peine. Comme dans tout ménage, on doit torchonner, on doit faire la vaisselle, apprêter les enfants, s'apprêter soi-même pour partir au boulot, ce n'est pas vraiment facile.
Face à cette pénurie, certains ménages s'adaptent comme ils peuvent en recourant à d'autres sources d'approvisionnement qui ont pourtant des risques sanitaires, craint cette habitante.
Quand il n'y a pas d'eau, nous nous réveillons le matin pour puiser l'eau du puits et, si on n'en trouve pas, nous achetons de l'eau de forage. Les conséquences sont nombreuses, car l'eau des puits que nous utilisons peut rendre malade et son utilisation pour la douche occasionne parfois des démangeaisons.
Malgré nos tentatives, nous n'avons pas obtenu la réaction du responsable de la régie des eaux, Beni. Jacqueline Vivouya, Radio Okapi.
Rendons-nous au Kasaï oriental avant d'aller plus loin. 6 corps conservés à la morgue de l'hôpital Notre-Dame de l'Espérance sont abandonnés depuis plus d'une année. L'abandon des dépouilles dans les morgues devient un phénomène de plus en plus récurrent en Mbujimayi. Les explications avec Esther Ndalafina.
C'est depuis plus d'une année que 6 corps sont toujours abandonnés à la morgue de l'hôpital Notre-Dame de l'Espérance. Cette situation préoccupe le docteur Nicodème Kalala, médecin directeur de cet établissement médical.
Nous avons des corps abandonnés, 6 pour les enfants et 3 pour les adultes. Corps qui ont déjà séjourné à notre morgue très longtemps. Les plus anciens totalisaient maintenant plus de 2 ans et demi.
Selon docteur Nicodème Kalala, ces dépouilles mortelles représentent non seulement un manque à gagner pour l'hôpital, mais surtout un risque sanitaire.
C'est une source de contamination, donc ça inquiète et le personnel qui travaille et toute personne qui peut y entrer. Donc, ce n'est pas bien. Alors, notre souci, c'est de dégager ce corps de notre manque, vraiment. C'est un manque à gagner parce que ces places-là pouvaient être occupées par d'autres corps.
Ce phénomène n'est pas isolé. Dans plusieurs morgues de la ville, des corps sont régulièrement abandonnés faute de moyens ou de famille pour les réclamer. Il y a quelques semaines, certaines dépouilles gardées à la morgue de la clinique universitaire de l'université officielle de Mbujimaï ont finalement été inhumées sur réquisition du tribunal de grande instance de Mbujimaï, mais le problème persiste. Esther Ndalafina, Mbujimaï, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Guerre au Moyen-Orient, les États-Unis ont annoncé qu'ils allaient imposer à partir de ce lundi à 14h temps universel un blocus aux ports iraniens après l'échec des pourparlers directs entre les deux pays dont Washington et Téhéran se renvoient la responsabilité. L'Iran juge ce blocus naval illégal et dénonce un acte de piraterie. De son côté, le Liban assure œuvrer pour un retrait israélien total du territoire.
L'invité.
L'ouvrage intitulé « Les bâtisseurs d'honneur » consacré aux avocats par le Conseil de l'Ordre vient d'être présenté à Mbandaka dans la province de l'Équateur. Ce livre de 96 pages rend hommage aux pionniers de cette profession libérale. Maître Dominique Kambala, bâtonnier honoraire du barreau de Kanango Kasai Central et membre du Conseil, s'est exprimé à ce sujet au micro de Kaki Akewa.
Maître Dominique Kambala, bonjour.
Kaki Akewa, bonjour.
Vous faites partie du Conseil national de l'Ordre. Vous étiez à Mbandaka pour les baptêmes de cet ouvrage édité aux éditions Presse universitaire de Kinshasa. Pourquoi les baptêmes de ces livres s'est déroulé à Mbandaka?
À Mbandaka parce que nous avons fait d'une pierre deux coups. Comme vous le savez, chaque année, l'Ordre national des avocats organise deux grandes assises. La conférence des bâtonniers de la RDC, et cette fois-ci c'était la 20e, et l'Assemblée générale de l'Ordre national des avocats. Donc, il ne pouvait pas être autrement que le bâtisseur soit porté sur les fonds baptismaux à Mbandaka.
Très bien fait, en tout cas, les bâtisseurs d'honneur, Mbandaka, ça tombe bien. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pour réaliser cet ouvrage?
La collecte des données n'a pas été facile. Il fallait commencer, remonter l'histoire à partir de 1963 jusqu'à ce jour. Donc ça n'a pas été facile pour collecter les données. Parmi les bâtisseurs, il y a ceux qui sont décédés, il y a ceux qui sont en dehors du pays, il y a ceux qui n'exercent plus la profession. Bref, voilà, donc c'était pas facile de pouvoir collecter toutes les données en un temps record.
Maître Dominique Kambala, vous avez parlé des 1963 pour réalisé. Alors, en 1963, il n'y avait qu'un seul avocat congolais au barreau de Kinshasa, s'il y avait encore les barreaux. Maître Mbongo.
Avec d'autres. Et comme le premier qui a son numéro en tête, c'est Victor Promontorio, alias Seya Chibango. Mais c'est un étranger. Alors, si vous regardez bien, c'est Mbongo Vital qui vient en deuxième position. Donc, le premier, c'est pourquoi il est compté comme le premier avocat congolais, bien qu'il soit le deuxième sur le tableau.
Vous avez fait 96 pages pour réaliser cet ouvrage consacré aux avocats. D'autres avocats ne se sont pas retrouvés, j'imagine.
Bon, en tout cas, dans l'ensemble, parce qu'ici, il s'agit des bâtisseurs, en termes des pionniers, comme votre père, Papa Akewa.
Oui,
c'est parmi les pionniers du barreau congolais. Alors, il y a aussi dans cette catégorie les anciens bâtonniers nationaux. Il y a les anciens bâtonniers qui ont dirigé les barreaux, et il y a les bâtonniers en exercice. Et donc, on a fait un effort pour que vraiment, on n'oublie personne. Et de toute manière, c'est une œuvre humaine, oui, qui est perfectible. Voilà. Donc, il peut arriver qu'un détail ait manqué. Mais en tout cas, nous avons pris toutes les dispositions nécessaires pour qu'il n'y ait pas d'oublié.
Et j'ai parcouru l'ouvrage, même en diagonale, mais j'ai parcouru quand même. J'ai vu qu'il y a beaucoup d'avocats qui sont décédés. Là, tout récemment, quand vous écrivez ces livres, Maître Matadinenga Gamanda n'était pas encore décédé. Quand le livre est sorti, il est décédé. C'est parmi les difficultés, j'imagine.
Oui, paix à son âme. On pensait peut-être qu'il allait rester jusqu'au baptême, mais il en a décidé autrement. Voilà, donc, il aurait pu être heureux de se regarder lui-même. Eh ben voilà, l'irréparable est arrivé.
Maître Dominique Kambala, 200 exemplaires seulement pour cet ouvrage, et les 200 exemplaires sont épuisés déjà.
Déjà épuisés, et nous avions été obligés de faire déjà une autre commande. Et là, nous saluons vraiment les avocats qui ont compris qu'il fallait vraiment procéder à ces devoirs de mémoire. En tout cas, les 200 qui ont été faits en Mbandaka, c'est parti. Nous avons encore imprimé une autre quantité. Bon, on espère que, voilà.
Bâtisseur d'honneur, c'est ce livre qui est déjà sur les marchés, il faut dire ça comme ça, mais 200 exemplaires, vous êtes sous-estimé ou bien parce qu'il fallait peut-être produire 2000?
Bon, nous avons d'abord commencé par un essai. Nous avons compris que sa portée, c'est un produit qui est consommable. Et là, je pense que nous prendrons disposition. Et il ne faut pas aussi oublier que le marché du livre au Congo est toujours compliqué. Donc, plus vous produisez, ça risque de poser un problème. Donc, nous allons aller comme ça. Comme nous sommes dans une corporation, dans un ordre, il y a des barreaux qui vont sûrement intéresser les autres avocats et qui passeront le commande.
Les bâtisseurs d'honneur, et ça, vous avez parlé un tout petit peu de l'honneur d'un avocat en République démocratique du Congo également, aujourd'hui. Est-ce qu'il a de l'honneur, l'avocat congolais?
C'est ce que je dis, il ne manque pas de moutons noirs. Mais on ne peut pas compter 10 moutons noirs pour jeter de l'opprobre sur la profession. Mais nous faisons un effort pour que, en tout cas, l'éthique professionnelle soit, c'est comme la discipline, comme à l'armée. Donc il faut qu'on mette à la devanture l'éthique professionnelle. Et ça, c'est les combats de tous les jours du Conseil national de l'ordre et même de tous les bâtonniers à travers toute la République, parce que nous gérons les affaires d'autrui. Et l'élément confiance, il est crucial et monumental. Et on ne peut pas détruire la confiance. Et c'est pourquoi on est très regardant pour que les avocats qui manquent au devoir de la profession puissent répondre de leurs responsabilités professionnelles et disciplinaires.
Maître Dominique Kambala, Radio Capi vous dit merci.
Je vous en prie.
C'était notre invité, Maître Dominique Kambala, qui s'entretenait avec Taki Akiwa. Et voilà qui met fin à cette grande édition du journal Parler de la mi-journée, coordonnée par Élisée Chikota Chivueta, supervisée par Alain Irung Moshinge et mise en onde de Main des Maîtres par Pierre Diassinois. Ce journal est à suivre sur notre compte TikTok ainsi que sur notre site internet www.radiocapi.net.